Salut, je suis Annaëlla Basque, bienvenue dans le troisième épisode de Gavé. On y parle des éleveurs et éleveuses bretons et bretonnes à l'épreuve de la transition écologique. Pour ce dernier épisode, on est allé avec Lisa François et le reste de l'équipe à la ferme Arémonde, près de Brest, à Guipava. Là-bas, on était dans une grange, en public.
Qui c'est qui aujourd'hui veut vouer sa vie entière à un métier?
Mais au final, comment je suis rémunérée pour ça? Et ça, c'est la question à laquelle il faut qu'on réponde collectivement.
Gavé, on veut remettre en place le même schéma qu'il y a eu avec l'agriculture industrielle.
Ce système-là, il est terminé. Il faut vraiment, vraiment chacun s'unir pour qu'on avance.
Gavé, on se dit qu'on est peut-être la dernière génération d'agriculteurs ici.
Gavé.
Eh, on a parlé du bio qui n'est plus vraiment écolo à partir de la 10e minute avec Valérie Lazenec, éleveuse laitière bio près de Brest. Urgence climatique et rentabilité de l'écologie, on en parle avec nos invités à la 17e minute. Et les consommateurs et consommatrices dans tout cela, rendez-vous à 30 minutes, le public prend la parole. Mais tout de suite, on revient en plateau avec un éclairage puis un reportage.
La transition écologique est-elle réellement possible? Pour tenter de répondre à cette question, nous sommes avec Danielle Evin. Bonjour. Vous êtes présidente d'Agriculteurs de Bretagne et ancienne présidente de la Chambre d'agriculture des Côtes d'Armor.
Tout à fait.
Valérie Lazenec, bonjour. Éleveuse laitière à la ferme pédagogique du Trahan-Bihan à Brest et vice-présidente de la FRAB, donc qui est la Fédération régionale des agrobiologistes de Bretagne. Claire Huot, bonjour. Vous êtes ingénieure en agroéconomie et sociologue spécialisée dans le développement rural. Vous faites partie du GERDAL, qui est donc le groupe d'expérimentation et de recherche dans le développement et d'action localisée. Et Michel Campion, qui est le créateur de l'association Vers le Jardin. Bonjour.
Bonjour.
Et donc si la ferme Arémonde existe, donc c'est le lieu où nous sommes aujourd'hui, c'est un petit peu grâce à vous.
Oh,
est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le lieu?
Pas qu'à moi. C'est vrai que je suis investi, que j'y crois, mais que heureusement qu'il y a plein de petites mains et plein de petites têtes et plein de petites gens derrière qui nous donnent un coup de main. Donc nous sommes dans un lieu qui est une ancienne ferme traditionnelle, hein, où il y avait des vaches laitières et puis qui travaillaient sur l'agriculture et qu'on a repris depuis 2 ans bientôt. Pour permettre aux habitants de voir comment on peut jardiner, comment on peut élever des choses. Voilà.
Avec moi dans cette émission, Lisa François, bonjour.
Bonjour.
Alors ensemble, nous allons aborder les questions d'élevage écologique, élevage biologique et aussi d'agroécologie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce qu'est un élevage écologique exactement?
En fait, on parle plutôt d'agroécologie, c'est un changement de modèle agricole, donc une alternative à la culture productiviste, produire en tentant de polluer le moins possible.
Et comment fait-on concrètement?
En misant sur la biodiversité, et dans le cas de l'élevage, c'est par exemple diversifier la race de ces animaux, plus local, ou encore diminuer leur nombre, remplacer la chimie, remiser sur la nature, comme réduire les intrants de synthèse, tels que les pesticides et les engrais, implanter des haies, qui attirent des espèces mangeuses de pucerons et autres ravageurs de plantes, ou encore privilégier les circuits courts pour vendre ces produits.
Et l'écologique, est-ce que c'est forcément biologique, Lisa?
Alors l'agriculture biologique, c'est un label européen, il faut se plier à une charte précise, alors que l'agroécologie, c'est une manière de produire adaptée au cas par cas, en fonction des ressources et du territoire, donc non écologique n'est pas forcément biologique.
Et donc justement, vous avez rencontré un éleveur, Antoine Lecor, près de Quimper.
À Plogonnec, exactement, dans la ferme de Rubian, agriculteur en biologique depuis 2001, on a pu voir avec lui que le bio n'est pas forcément écologique et vice-versa. Sur une structure de 62 hectares, il élève avec sa femme 120 bovins, 60 brebis et 170 agneaux.
On écoute votre reportage réalisé avec Léa Dubost.
La grosse mémère là qui arrive.
Ah
bah ben voilà. Quoi? T'as un problème? Sur les 62 hectares, j'ai 52 hectares qui sont totalement en prairie implantée ou alors en prairie naturelle, des prairies de rotation longue, c'est-à-dire quand j'implante une prairie, c'est au moins pour 10 à 15 ans et plus, et je mets à peu près entre 10 et 8 hectares en culture.
Et justement, vous disiez que donc les animaux après étaient transformés en viande,
oui.
Au bout de 3 ans, 3 ans et demi pour les bovins.
Pour les bovins, oui.
Où est-ce que c'est fait? Comment vous le faites?
Alors après, là, c'est un gros problème. Nous, on travaille avec des abattoirs publics. Et ça, c'est une volonté, en fait, des pouvoirs publics. C'est qu'on a tendance à tout centraliser. Et donc, le seul abattoir public qui nous reste, en fait, c'est Le Fou.
Il est à combien de temps d'ici?
45 minutes. Il n'y a plus d'abattage de proximité, quoi. On veut engendrer qu'il y ait une transition écologique, sauf que tous les services de proximité sont supprimés.
Là, ils vont venir nous voir. Ou ils vont rester nous regarder.
Curieuse.
Ah oui, c'est très curieux. Ça va, mon gros? Pendant la période de conversion, les 2 ans, là, il faut avoir des reins assez solides. Il faut avoir des reins assez solides parce que pendant les 2 ans où vous allez obtenir le label de conversion, vous n'avez plus le droit d'utiliser tout ce qui est fertilisants minéraux, donc issus de la chimie, tout ce qui est herbicides, pesticides ou autre chose. Entre nous, mal, hein, mais... voilà. Et puis après, le chimique, ça apporte un certain confort et une facilité pour certains confrères. Donc du coup, de passer de tout à rien, ça peut faire peur. Alors tout de suite, on va dire que les parcelles sont sales parce qu'il va y avoir des adventices, des mauvaises herbes. En gros, moi j'appelle ça des adventices, mais des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir dans leur parcelle qui vont commencer à se redévelopper. Parce que tout ça, c'est un milieu, ça s'équilibre. Et du coup, ouais, ça peut contrarier certains éleveurs. Moi, ça ne me dérange pas. S'il y a une gestion convenable derrière, moi je trouve que c'est des parcelles plutôt jolies. Certes, il y a des fleurs, mais voilà, il y a des alternatives. Ouais. Il y a plein d'outils mécaniques maintenant qui existent. Et puis après, il y a tout aussi des antécédents culturaux à mettre en place. Certaines plantes vont pouvoir nettoyer le sol, d'autres vont l'enrichir. Enfin bref, on se spécifie un petit peu sur le vivant. Ça va, mon pépère?
Ouais. C'est bien, mon grand? Non, c'est plus intéressant.
De jouer avec l'eau. Mets pas ton nez sur le fil, petit cochon. T'es vraiment gros, toi. Hein. T'es un gros lard. Hein.
Il y a une idée reçue que ce n'est pas rentable aujourd'hui d'avoir une plus petite production, d'avoir des moyens justement moins chimiques, etc. Qu'est-ce que vous en dites, vous?
C'est moins rentable si on choisit des schémas de commercialisation classiques. Je pense... L'agriculture, c'est nourrir son monde. Et du coup, soit on choisit les chemins traditionnels, c'est-à-dire de vendre toute sa production sans s'embêter à la commercialisation parce que ça prend beaucoup de temps. Soit on choisit des chemins dérobés, plus les circuits courts, la vente directe, des choses comme ça. Où là, en fait, on va être les propres maîtres en fait, de notre prix juste. Et du coup, celui qui va nous permettre de vivre convenablement. Mais ça entraîne de l'investissement et du travail supplémentaire, quoi. Et moi, je veux prendre plus un système autonome où on est capable d'assumer les besoins de son troupeau par soi-même sans avoir d'intrants. Et en fait, après, le bénéfice qu'on en dégage, c'est de la plus-value, quoi. Voilà. Hop, on va avancer.
Tu viens au pied? Allez, viens au pied.
Qu'est-ce qui vous plaît justement, qu'est-ce qui vous anime dans le fait de faire de l'agriculture biologique?
Dure question là. moi je vois pas d'autres moyens de produire. Je saurais même pas comment vous répondre.
Paraît évident?
Ouais, ça me paraît évident en fait. Ça me paraît évident. J'ai jamais eu besoin de pallier à la chimie pour tout ce qui est travaux de sol ou autre chose. J'arrive à très bien le faire mécaniquement. Certes, c'est peut-être un peu plus de boulot. C'est pour ça que des fois, au niveau écologique, on n'est plus trop en accord non plus. Parce que ce qu'on va faire déjà avec la chimie, mécaniquement parlant, ça utilise le tracteur, du gasoil. Donc ça fait plusieurs passages de tracteur. Donc là, on est perdant. Mais en même temps, je ne mets pas de saloperie sur mes champs, quoi.
Et vous qui êtes au bio justement depuis 2001, si je ne me trompe pas,
oui.
Est-ce que vous avez vu une évolution du label, de la charte, de l'ambiance, oui, autour du bio?
Comment dire? À l'origine, si vous voulez, le bio, il avait été lancé au tout début, en fait, pour se démarquer, pour montrer une agriculture qui était beaucoup plus paysanne, de petites structures, et ça permettait une valorisation des produits, des petites structures. Et maintenant, on a des structures qui sont très grosses, qui sont en bio. Depuis 4-5 ans, là, il y a énormément de conversions, c'est bien, mais tous ne sont pas dans l'éthique qui avait, que sont les premières générations qui sont passées en bio, quoi. Maintenant, il y a deux mondes bien distincts, quoi.
«
Les doutes d'Antoine Lecor, éleveur finistérien, sur cette nouvelle ère du bio. Alors, en réponse au laxisme du label européen Agriculture Biologique, il y a aussi des labels français plus stricts. Valérie Lazenec, vous êtes éleveuse à Brest et vous avez expérimenté le label Biocohérence pendant 2 ans. Vous êtes-vous reconnue dans les propos d'Antoine Lecor ?
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il a bien résumé l'agriculture biologique de son départ et puis de son évolution aujourd'hui avec, on va dire aujourd'hui, un attrait de tous autour du bio, parce qu'il voit aussi que la société civile nous le demande. Donc tout le monde s'y met et on voit du coup petit à petit cette éthique et toutes ces valeurs que le réseau a mis en place il y a très très longtemps qui s'amoindrissent. Du coup, c'est vrai que dès le départ, quand le cahier des charges européen s'est mis en place, il y a eu aussi ce mouvement autour de biocohérence, pour lequel nous, on a adhéré au niveau de la ferme ici à Brest. Voilà, malgré tout, c'est un mouvement qui a eu du mal à se développer, qui fait qu'il est très très peu connu. C'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de choses et que les consommateurs sont parfois noyés par derrière des labels, des marques, des identifications. Et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on travaille pour que du coup on identifie mieux ce que l'on veut et puis que du coup les gens prennent conscience que du coup la bio elle suit un mouvement que peut-être certains essayent d'impulser et puis qu'il restera toujours la bio qui est celle d'origine et que l'on doit conforter.
Et le chemin pour devenir biologique, il ressemble à quoi ?
Eh ben, il a bien expliqué, là, l'éleveur. C'est clair que c'est un cheminement. Hein. C'est aussi des valeurs que l'on souhaite. Avant tout, c'est le respect de l'environnement, de la nature. Et c'est travailler en lien direct, en osmose, avec ce qu'est la nature. Et de vivre les saisons, d'être proche de ses animaux, de sa terre. Et puis de pouvoir faire des loupés. Hein. La chimie n'est pas là pour rattraper. Eh ben, on loupe une année, on recommence l'année suivante. Et on sauve aussi l'air, la mer, la terre et surtout la santé des hommes et des animaux.
Qu'avez-vous changé dans votre modèle agricole à vous pour devenir biologique ?
Ça fait déjà longtemps que la ferme est passée en bio, ça fait bientôt 20 ans. Il l'a bien expliqué, c'est tout un changement de pratique. Voilà, après, la ferme avait déjà un système plutôt extensif au départ. Donc c'est vrai que c'est plus facile quand on part déjà sur, notamment au niveau d'un élevage, d'un système plutôt herbagé. Ensuite, il y a le temps de conversion légale qui est de 2 ans. Il faut quand même savoir qu'il faut bien plus que ça pour vraiment s'installer dans une vraie agriculture biologique. On va penser plutôt autour de 5-7 ans. Et comment c'est des changements de pratique, c'est ce qu'il a dit, c'est du mécanique, beaucoup de prévention. Tout est basé aussi sur le bien-être animal. Voilà, ce sera un peu long d'expliquer tout en large et en carré comment ça fonctionne en fait. Vraiment, une conversion en bio, ça dépend aussi de la production que l'on a. Mais les bases sont là. C'est aussi l'autonomie. C'est-à-dire Donc, qu'on est basé sur des systèmes totalement autonomes. On produit sur place aussi ce qu'on a besoin pour l'animal et on achète très peu de choses à l'extérieur.
Ouais, donc ça, c'est dans des pratiques agricoles. Il y a le bocage, les prairies qui entourent aussi vos terres. Est-ce que ce n'est pas le défi de la transition écologique aussi, ce territoire ?
Tout à fait, c'est ce que l'on essaie de défendre aussi. Nous, on est sur Brest, on a eu de la chance qu'il n'y a pas eu de remembrement, donc les talus sont toujours existants. Et c'est des choses qui ont disparu par le système plus intensif où on a tout rasé. Et voilà, il faut quand même savoir que toutes ces choses-là sont importantes. Talus instaure une vraie biodiversité, l'écosystème. Les zones humides aussi, en bio, on travaille énormément les zones humides. Ça ne nous pose pas du tout de problème, au contraire. Voilà, c'est des choses qui ont été un peu rejetées par le système aussi plus intensif, mais elles sont là, elles sont importantes et c'est elles qui complètent l'ensemble et qui fait que l'écosystème peut survivre.
Et en quoi elles sont importantes justement ces prairies et ces bocages ?
Elles sont importantes parce qu'elles génèrent une vraie biodiversité et que dedans, on a une variété au niveau des espèces végétales, etc., qui permettent justement, du coup, à tout le système, les insectes, etc., d'être présents. C'est vrai que quand on est sur un système de culture où on choisit ce que l'on sème, c'est de la chasse et puis c'est un fonctionnement totalement différent. Là, nous, on entretient réellement une zone humide où naturellement, des variétés sont là et on les préserve, voilà, et on adapte totalement aussi nos animaux pour pouvoir venir pâturer sur ce genre de prairies.
Mais justement, avec vous, on peut voir que l'agriculture écologique, c'est possible, mais à l'échelle de la Bretagne, on peut se demander aussi si ça avance. Alors, la Bretagne serait la première région agroécologique en France. Anaëlle, qu'est-ce qui nous le prouve ?
Alors, 194 millions d'euros, c'est la somme investie en 2016 par la région dans les mesures agri-environnementales et climatiques qu'on appelle les MAEC. Alors, la Bretagne est la région française qui investit le plus dans les politiques publiques liées à l'agriculture. Pour comparer, la région Pays de la Loire a investi moins de 100 millions.
Alors, à quoi servent exactement ces 194 millions d'euros ?
À encourager les agriculteurs à se tourner vers l'écologie plutôt que d'imposer ces réglementations. La région aide financièrement les agriculteurs porteurs de projets écologiques. Et aujourd'hui, c'est un tiers des agriculteurs bretons qui sont engagés dans ces mesures agri-environnementales et climatiques. Donc, ils sont donc aidés sur plusieurs plans, comme la gestion des zones humides, la gestion du bocage, comme on l'a vu avec vous, Valérie Lazenec, la protection des sols et la réduction des produits phytosanitaires.
Et donc les mesures écologiques, ça paie. Danielle Evin, présidente du réseau agriculteur de Bretagne, le taux de nitrate a baissé en Bretagne ces dernières années ?
Oui, ça, ce sont des statistiques qui sortent régulièrement. Et alors, il y a des focalisations sur un certain nombre d'endroits, comme par exemple les baies algues vertes. Mais globalement, on sait qu'on est passé d'un taux de 45 mg, puisque c'est toujours comme ça qu'on parle, à un taux d'environ 30 mg au niveau des rivières. Donc il y a eu du travail de fait, mais qui est du travail aussi de longue haleine. Et je crois que c'est aussi ça, il me semble, l'agroécologie, c'est de pouvoir accompagner les agriculteurs, comme vous venez de le dire, à faire des mutations qui peuvent être très longues, comme Valérie vient de le signaler, et sachant qu'il y a certaines productions qui vont s'y prêter plus que d'autres, et que chaque exploitation a aussi une histoire familiale, une histoire d'hommes et de femmes, et que certaines peuvent aller vers des systèmes agroécologiques que l'on a par ailleurs aussi largement portés au niveau des chambres d'agriculture. Hein. On a appelé ça agroécologie, on appelle ça multiperformance, on appelle ça agriculture écologiquement intensive, peu importe à la limite le mot. Je crois qu'effectivement, ce qui est important, c'est de se dire qu'on est dans quelque chose qui est une mutation et peut-être aussi mettre plus d'agronomie dans nos pratiques, ce qui a peut-être par le passé été conçu peut-être un peu différemment.
Et Claire Ruot, justement, vous êtes ingénieure agronome, on peut voir que ça avance, il y a des choses qui avancent pour l'écologie. Est-ce que vous sentez que ça avance assez vite par rapport à l'urgence climatique justement qui nous guette ?
Assez vite, non, pas assez vite, mais en même temps, tout dépend de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue de la nature et de l'univers, je fais confiance aux études scientifiques, et effectivement, ça va pas assez vite. C'est pas moi qui le dis. Donc le risque sur l'ensemble de l'évolution de, vous l'avez dit, hein, de la biodiversité, etc., apparemment, il est majeur et il y a une urgence enfin, très très importante. Donc on pourrait dire que non, ça va pas assez vite. Après, ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que ça pourrait aller un peu plus vite et qu'est-ce qui fait que ça pourrait ne pas relever seulement d'initiatives individuelles ou du bon vouloir des gens parce qu'à un moment donné, ils se sentent prêts, mais que on revienne à ce que moi j'appellerais un contrat social. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de contrat social. Il y a des contradictions. Et finalement, l'agriculteur, il est au milieu d'un tissu d'incohérences et de contradictions. Enfin, ce qu'on peut appeler un contrat social, c'est quand il y a un objectif qui est partagé par un ensemble d'acteurs, mais que les moyens qui vont avec cet objectif, politique publique, moyens techniques, recherche scientifique, acteurs du développement, vont dans le même sens. Or, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Du tout, du tout, du tout. Il y a un discours de l'agroécologie. Mais il y a avec des mesures d'aide publique, mais qui posent question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles encouragent ou pas. Il y a aussi des politiques économiques, il y a des questions de paiement des prix qui vont dans l'autre sens, c'est-à-dire qui poussent au contraire à continuer d'intensifier, à continuer d'agrandir et à soi-disant continuer à faire des économies d'échelle. Donc c'est ça que j'appelle le contrat social rompu. Et pour l'instant, il n'est pas encore retrouvé. me semble-t-il.
Et justement, on peut voir là qu'il y a des mesures pour inciter les agriculteurs à devenir un peu plus écologiques. On l'a vu avec les propos d'Anaëlle. Daniel Levin, vous qui avez été présidente de la Chambre d'agriculture des Côtes d'Armor, vous avez été en contact direct avec les agriculteurs. Inciter comme la région et l'Europe le font plutôt que de contraindre, est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est ce qu'il faut pour changer de système ?
Vaste question. Évidemment que l'injonction, c'est quelque chose qui ne peut pas être compris parce que elle est clairement dans ce qui vient d'être dit. Un agriculteur, il va travailler, peu importe son système, peu importe sa production, il va travailler parce que il aime son métier, que il l'a choisi et on le choisit de plus en plus. Peut-être certains l'ont subi aussi par le passé, mais on le fait aussi dans le cadre de d'un panorama économique et pour gagner sa vie, pour élever ses enfants, etc. Donc les injonctions à faire différemment, ça marche pas. C'est pas ça qui fait qu'à un moment donné, on a un moteur pour éventuellement changer, éventuellement aller vers autre chose. Et ce qu'on a essayé de travailler au niveau du réseau des chambres d'agriculture, qu'on travaille toujours, c'est d'amener la compréhension de ce qui se passe dans les milieux, d'amener de la compréhension sur les améliorations à amener dans son exploitation pour avoir effectivement un gain et en temps de travail éventuellement, et économiquement, et socialement, et environnementalement. Donc c'est ça qui a guidé nos actions depuis déjà longtemps. Ce qu'on peut voir effectivement, c'est que le contrat qui peut être passé avec les agriculteurs, qui est dire quand tout ça ce sera fait, quand tout ça ce sera intégré, les prix vont aussi être au niveau de ce qui a été demandé et des efforts qui ont été faits. Les MAE étant là pour à un moment donné gérer le risque prix quand on change. Mais il arrive un moment où ça s'arrête, quoi. Sauf que les prix ne sont pas au rendez-vous. Et c'est de ça, c'est là-dessus qu'effectivement il faut rebâtir quelque chose, qu'il faut rebâtir un contrat et vers lequel après on va entraîner un maximum d'agriculteurs, parce que c'est ça aussi la question, c'est entraîner beaucoup de personnes. Et ça se fera si les prix sont là.
Donc pour le moment, l'agriculture écologique, ça a du mal à être rentable.
C'est pas ça que je dis. C'est qu'il faut il faut que les agriculteurs voient le résultat de ça. Je vous donne juste un exemple. Je suis en production porcine, en baie de Saint-Brieuc, baie Algues Vertes. Voilà, j'ai fait très court. J'ai intégré un certain nombre de choses dans mon exploitation au regard de ce que je pouvais faire, hein, par exemple. Donc on a travaillé sur mon exploitation avec probablement le plus petit méthaniseur de Bretagne. On pousse le système de traitement, j'essaye de faire simple, pour pouvoir avoir un sulfate d'ammonium, qui est quelque chose qu'on va substituer, par exemple, à des engrais chimiques. Voilà. Mon cochon, il est toujours payé le même prix. Il est toujours payé le même prix. Or, j'ai fait des investissements que j'ai pris sur mon exploitation. Et quand je dis moi, ce n'est pas question de parler de moi. C'est une question de parler de beaucoup d'autres sur le terrain. Donc les prix, ils sont aussi là pour, à un moment donné, faire que les risques ne soient pas toujours pris par les mêmes et toujours supportés par les mêmes.
Parce que justement, les MAEC, c'est des aides qui visent à compenser la perte en fait, de revenus liés à des pratiques agricoles plus respectueuses. Est-ce que ça veut dire que les pratiques plus respectueuses sont pour l'instant pas encore économiquement viable pour les agriculteurs qui veulent devenir un peu plus écologiques?
Elles peuvent être plus viables, ça vient d'être dit. Après, il faut qu'il y ait beaucoup de production comme ça, parce qu'on est sur des cahiers des charges, par exemple sur la bio, avec des prix qui sont majorés, et c'est très bien. On est sur des labels, on est sur des cahiers des charges très différents d'ailleurs, dans lesquels souvent les consommateurs se perdent. Mais sur la totalité de la production qui sort par exemple d'une région comme la nôtre, il faut que la valorisation, elle soit plus sonnante et trébuchante au regard de tous les efforts qui ont été faits. Et je voudrais vraiment dire ça, c'est que Les labels, les cahiers des charges, c'est quelque chose qui est parfait. Mais il faut savoir qu'on a une agriculture en Bretagne qui est déjà à haute performance. Sinon, on n'aurait pas les gains dont on vient de parler là en termes d'environnement. Et être surtout la seule région en France et même au-delà de ça, qui a ces gains-là. Donc il y a eu un... C'est vrai sous la contrainte, c'est vrai parce qu'il y avait des phénomènes naturels qui nous montraient qu'il fallait faire des choses, on a eu des gains. Mais les prix à la consommation, les prix à la vente, ils sont pas au regard de l'effort fourni au quotidien.
On a parlé un peu de performance. Claire Huot, vous avez participé en 2014 avec la région à lancer un appel à projet d'une agriculture écologiquement performante. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors juste, si vous me permettez avant de répondre, je vais juste ajouter un point à ce qui vient d'être dit. C'est pas les pratiques agronomiques qui sont, ou écologiques qui sont pas rentables, c'est le métier d'agriculteur qui n'est pas rentable. Et s'il n'est pas rentable, c'est parce que le système actuel est une impasse totale. Donc quand je disais qu'il fallait retrouver un contrat social, c'est aller beaucoup plus loin dans l'évolution, beaucoup plus loin les efforts qui ont été faits. Alors là, par contre, je vais aller beaucoup plus loin que vous. Ils ne sont absolument pas à la mesure de ce que sont les urgences, de ce que peut être une agriculture durable, viable. Quand je dis viable, c'est durable sur le plan environnemental, on l'a dit tout à l'heure, par rapport à l'urgence de la survie de notre planète, et c'est aussi par rapport à la viabilité pour l'agriculteur. Donc il faut à la fois aller beaucoup plus loin, on ne peut pas se contenter d'aménager le système actuel, mais là, quelque part, je parle à la fois peut-être en tant que citoyen, mais aussi en regardant ce que produisent les aménagements. C'est-à-dire, en fait, on compense par des aides individuelles à l'exploitation, des petites marges, mais qui, au bout du compte, ne dégage pas une évolution de la rentabilité de l'exploitation. Parce que la rentabilité de l'exploitation, c'est pas seulement compenser les efforts demandés. C'est le minimum. C'est le minimum. Mais c'est retrouver un système d'une exploitation qui fonctionne. Alors, la rentabilité, elle vient de plusieurs bouts. Elle vient de comment on est payé par son travail. Ça, c'est vrai dans n'importe quel métier. Mais elle vient aussi de qu'est-ce qu'on dépense. Mais après, elle est aussi à relier au nombre de personnes qui travaillent sur une exploitation et au nombre d'unités de production. Alors ça peut être des litres de lait, ça peut être des kilos de céréales qui est produit. C'est-à-dire combien coûte un litre de lait aujourd'hui? Et là, il y a des écarts énormes entre le coût de production. Bon, le coût moyen, il est calculé par l'IDEL, hein, enfin l'Institut de l'élevage, je crois qu'il est à 396 euros là, pour cette année. Et le prix du lait, il est payé à 330. C'est impossible d'en vivre. Donc on compense par des aides et on multiplie les aides et on fait des aides maintenant qui poussent un petit peu vers l'écologie, mais qui, finalement, ne remettent pas forcément fondamentalement en question. Mais alors, après, cette remise en question, elle est très complexe et elle ne peut pas se rester qu'au niveau de l'individu. Et c'est pour ça aussi que l'appel à projet, la AEP dont vous parlez, mais c'est une pierre parmi d'autres, vise à encourager un travail collectif, mais en mettant l'accent toujours sur l'effort, enfin, ou les évolutions du côté des exploitations. C'est-à-dire que c'est encourager des groupes d'agriculteurs qui ont toujours existé dans le monde agricole, mais là, en les poussant à travailler sur cette question de la transition, à travailler ensemble pour expérimenter des pratiques agronomiques. Et là, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelque temps, ils intègrent dans les conditions pour être reçus à l'appel à projet des liens avec la valorisation des produits. Donc, par exemple, il y a eu deux groupes qui ont été qu'ont reçu un financement parce qu'ils vont travailler sur la valorisation des races locales, par exemple, ou sur la valorisation d'un lait produit à 100% à l'herbe.
Merci Claire Huot. Mais alors du coup, qu'est-ce qui manque vraiment pour que l'agriculture écologique devienne un modèle de référence ?
Devienne surtout un mode de production qui fonctionne, c'est-à-dire de référence, mais qui fonctionne, c'est-à-dire qui intègre en fait l'ensemble des filières. En Bretagne, si on est la première région en nombre d'aides, c'est aussi qu'on était peut-être une des régions, je ne sais pas si c'est la première, mais qui avait besoin aussi de vraiment travailler sur la mutation de son modèle. Donc, mais parce que c'est à la fois, c'est pas seulement au niveau de l'agriculteur dans son exploitation, bon, c'est l'agriculteur avec ses voisins, donc c'est comment on peut collectivement travailler sur de l'expérimentation, mais c'est aussi l'agriculteur dans ses relations avec l'amont et l'aval. Et c'est là où, pour l'instant, l'effort qui est demandé aux agriculteurs, il se traduit juste par une espèce de bagarre sur des petites plus-values de rien du tout. 10 euros la tonne de lait payée par la marque. Mais c'est ridicule si on regarde bien. Donc la question, c'est est-ce que le verdissement des modèles de production agricole, il va permettre à l'agro-industrie de finalement récupérer les attentes des consommateurs en termes de maintien des ventes dans la grande distribution, ou est-ce que ça va être l'occasion de revisiter le contrat agriculture, enfin agriculteur-industrie ? Est-ce qu'ils vont arriver à se dire, si on a besoin encore de matières premières, parce que ça s'appelle comme ça dans l'agro-industrie, est-ce que le contrat passé avec les agriculteurs, il peut se renouveler fondamentalement sur un accord par rapport à un produit qui a une valeur ? Pour l'instant, on n'en est pas là.
Oui, justement, vous parlez d'un changement de système, hein, qu'il faut changer le système entier pour venir à une agriculture écologique qui est le modèle de référence. C'est quoi aujourd'hui les ingrédients qui manquent ? Est-ce que, comme vous avez commencé à parler, est-ce que c'est la communication avec la recherche, la communication avec toute la commercialisation des produits ?
Alors déjà, ça c'est le premier point, c'est la rénovation des relations entre l'aval, oui, principalement. Et les agriculteurs. Alors, c'est très difficile parce qu'on n'est plus face à des petites coopératives. On est face à des groupes qui sont quasiment extrêmement difficiles d'accès par les agriculteurs, ne serait-ce que par la taille. C'est-à-dire que, et on est face aussi à des centrales d'achat. Bon, bah, ça, vous connaissez, hein, très, très peu nombreuses face à des agriculteurs qui diminuent, mais qui restent malgré tout nombreux. Ça, c'est un premier élément. C'est comment ce lien peut se renouveler. Deuxième chose, c'est le rapport entre les politiques publiques et les agriculteurs. Est-ce qu'on est uniquement sur des aides qui relèvent du volontariat, de contractualiser, et qui ne sont pas très valorisantes pour le métier d'agriculteur ? Parce que finalement, on vit des aides. Et ça, c'est beaucoup d'agriculteurs nous le disent, nous, tout le temps. C'est de sentir que c'est pas notre production qui nous fait vivre, que c'est les aides publiques. Donc, est-ce que on peut passer aussi de la seule aide à l'exploitation à des choses qui vont, finalement, je pense au bocage, par exemple, partager la question de l'entretien, du maintien, de la rénovation, de la replantation du bocage par la collectivité. Et pas seulement un agriculteur qui, ici, va replanter, son voisin va pas le refaire, etc. Donc, c'est tout cet élément. Et puis, travailler ensuite sur l'alimentation en dépassant le seul circuit court autour des villes, parce qu'on peut le faire. Comment on fait par rapport à la relocalisation pour les gens qui sont, la majorité des agriculteurs, hein, qui sont loin des villes et qui ne peuvent pas faire vendre directement en circuit court. Donc là, il y a aussi des choses à réorganiser sur l'approvisionnement entre les centrales d'achat et l'ensemble des agriculteurs.
On a commencé un peu à évoquer le lien avec le consommateur. Il y a quelques jours, nous avons rencontré Olivier Alain, le vice-président de la région Bretagne en charge de l'agriculture, qui nous a parlé justement de ce lien avec le consommateur.
Le consommateur a un rôle clé à jouer, hein, parce qu'il ne peut pas demander des produits encore plus sains, encore plus agroécologiques et acheter le moins cher, fait dans des conditions d'élevage avec des systèmes qui sont à l'inverse de ce qu'on fait ici. Le distributeur, par qui a un pouvoir considérable, est-ce qu'il va jouer le jeu ? Est-ce qu'il continue les prix bas et donc des prix des produits d'importation ? Parce qu'on sera forcément peut-être un petit peu plus cher. Les agriculteurs sont prêts à le faire, mais il faut aussi que ça se traduise en termes de politique contractuelle d'aide publique et aussi des consommateurs via aussi leurs distributeurs qui ont un poids énorme.
Alors Valérie Lazenec, est-ce que vous avez une réaction à ce commentaire ?
Eh bien, là, pris comme ça sur le vif, c'est un peu difficile.
Parce que vous êtes éleveuse laitière.
Voilà comment... moi, je pense que on a tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre à la demande aujourd'hui des consommateurs. Et les gens ont bien compris qu'il faut tout changer et que ce qu'ils veulent, c'est vraiment manger de la qualité. Et je pense que... voilà, c'est pas moi, paysanne bio, qui vais défendre aujourd'hui. Mais je crois que le bio local répond très bien à la demande de la société civile. Je pense que notre réseau est organisé depuis très très longtemps pour pouvoir fournir localement et écologiquement. Et je pense que la société civile bouge, mais ça fait très longtemps que dans certains territoires les choses existent et il y a moyen, même dans les grandes villes comme presque métropole, de pouvoir fournir les gens et même le bio pour fournir peut nourrir les gens. C'est un faux débat de dire qu'on peut pas le faire. Il faut simplement que les élus, que les collectivités et que les instances qui nous dirigent sautent le pas avec nous et qu'on y aille.
Parce que Daniel Evin, vous avez présidé la Chambre d'agriculture des Côtes d'Armor. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Alors, moi, je crois effectivement que d'abord, on est tous consommateurs. Vous, moi, toutes les personnes qui sont autour, ceux qui vont nous écouter demain, on est tous déjà des consommateurs. Et je crois que le consommateur, il est assez paradoxal parce qu'il dit un certain nombre de choses, il fait un certain nombre de choses. Et puis, il y a aussi toute la grande majorité de ceux qui n'ont peut-être pas la réflexion de l'alimentation et de la consommation. Et ces personnes-là, on doit se reconnecter avec eux. On doit expliquer aussi quels sont les enjeux que l'on a devant nous. Reconnecter avec le fait de aussi dire c'est quoi l'agriculture aujourd'hui, c'est quoi l'agriculture qui est souhaitée, c'est quoi les contraintes que l'on peut avoir. Et je crois qu'il faut, c'est en ça qu'on essaye aussi de travailler au niveau d'agriculteurs de Bretagne, par exemple, mais ça a été aussi le cas, et c'est aussi le cas dans le réseau des chambres, de se dire, il faut être à un moment donné assez cohérent dans sa demande et face aussi aux agriculteurs et à ceux qui produisent en face. Et je crois que pour faire ça, il n'y a rien de tel que la proximité, à un moment donné, la rencontre des agriculteurs avec les consommateurs. C'est les portes ouvertes, c'est les salons, c'est des rencontres, c'est des moments comme on a ici aujourd'hui. C'est vraiment demander aux consommateurs quels sont ses choix, ce qu'ils souhaitent, écouter aussi ce qu'il ne dit pas, répondre à ça dans toute la diversité qu'il peut y avoir, et Dieu sait si en Bretagne il peut y avoir de la diversité, et c'est tant mieux, et puis parler aussi justement du coût que ça peut avoir, toute cette production-là, de quel choix on fait quand on achète toujours au plus bas du plus bas, les incidences que ça peut avoir, etc. Je crois que les états généraux de l'alimentation ont un petit peu montré ça, à mon goût, pas suffisamment, mais ça doit permettre aussi quand même de se reconnecter et de reconnecter ici les Bretons et les Bretonnes avec nous, avec ceux qui sont sur les territoires et qui font la production.
Valérie Lazenec, votre ferme, c'est une ferme pédagogique, donc la ferme du Train Ambiant, près de Brest. Donc vous rencontrez des consommateurs presque tous les jours, en fait. Est-ce que vous constatez qu'ils sont prêts à payer plus cher ?
Alors je précise, on est avant tout une vraie ferme laitière de production. L'aspect pédagogique, on l'a, c'est-à-dire qu'on accueille depuis très longtemps différents publics et on est proche en fait des consommateurs. Donc on a ce volet pédagogique et vraiment la subtilité est importante parce qu'avant tout, on est quand même un lieu de production, on est un élevage et du coup, on nourrit aussi largement parce qu'on est collecté en circuit long et qu'on travaille aussi en circuit court. Donc voilà, donc au quotidien, c'est vrai qu'on reçoit les gens. Je pense que c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est ça. C'est que je crois que l'agriculture s'est écartée pendant bien longtemps là, des vrais consommateurs et qu'on doit resensibiliser les gens parce qu'ils ne savent plus d'où viennent les produits, comment ça fonctionne. Une vache, ça fait du lait, mais en fait, quand ils voient le lait sortir de la vache, ils sont surpris parce qu'ils croient réellement que ça pousse dans les briques, sur les étagères, dans les grands magasins. Et qu'on a une réalité d'une société qui est devenue très, très urbaine, avec des grandes villes où, du coup, les gens ne sont plus du tout issus du milieu rural. Et que ce lien se faisait plus. Et voilà l'exemple, nous, à la ferme, d'être bon sur une grande ville et de pouvoir et de vouloir, surtout, c'est même pas de pouvoir, c'est qu'on a fait ce choix aussi de recevoir les gens et de pouvoir traire les vaches avec des gens, des enfants, des adultes, de recevoir des publics à difficulté ou avec un handicap. Et tout ça fera que les gens vont voir, ils vont comprendre et ils vont faire des choix pour manger mieux.
Justement, Claire Ruot, vous qui êtes dans le domaine de la recherche avec évidemment une formation agricole, est-ce que vous avez vu aussi ce phénomène, que les gens sont prêts à payer plus cher ou pas aujourd'hui pour consommer une agriculture responsable ?
Ben, les gens, c'est pas une unité. C'est une diversité. Donc il y a des questions de pouvoir d'achat quand même, qui fait que effectivement, comme on peut pas contraindre. On ne peut pas diminuer le prix de l'électricité, du loyer, etc. Dans le budget, sur quoi on peut jouer ? Sur les vêtements et puis l'alimentation. Donc la question, c'est aussi comment... parce que oui, je vais être d'accord avec tout le monde qu'on peut pas, si ça a une valeur, soit on considère que le métier d'agriculteur et que le produit agricole a une valeur et donc il faut le payer, soit effectivement, si ça n'a pas de valeur, on ne peut pas sortir de l'impasse. Donc si on produit moins, avec des rendements moindres, et donc des coûts qui aient déjà été, enfin des prix qui aient déjà été trop bas de toute façon, il faut pouvoir payer plus. Maintenant, c'est comment on rend accessible ça, comment aussi on va, bon, par exemple, je vois les COP bio qui réfléchissent un peu sur comment on délocalise des lieux de vente pour aller dans les quartiers dans lesquels, pour l'instant, elles sont assez peu implantées, comment on fait. C'est tout un travail à la fois d'éducation, mais aussi de se dire, est-ce que dans les budgets des gens les plus modestes, il y a la possibilité de... Donc là, ça touche à d'autres domaines qui ne sont pas régulés.
C'est ça. En fait, ce qu'on a beaucoup remarqué en travaillant sur cette thématique, c'est que le lien social, les problématiques sociales et l'écologie étaient intrinsèquement liés. Mmh. Et ce qui nous a marqué quand on a rencontré Michel Campion, ouais, donc président de l'association Vers le Jardin, c'est qu'il ne pouvait pas y avoir de transition écologique sans ce lien humain. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu, du coup, votre projet, vous, ici ?
Oui, oui. Alors, je suis un peu mal à l'aise. D'abord, je ne suis pas président. Je ne suis que directeur.
Pardon.
Si Soise m'entendait. Et on n'est pas des paysans, nous. On n'est pas des agriculteurs. On n'est pas des maraîchers. On est des êtres humains qui se posons la question sur ce qu'on doit faire grâce au jardin, par la terre. Et du coup, quand on a créé Vers le Jardin, c'était de permettre à tous et à chacun de pouvoir accéder au jardinage. C'était ça l'objectif que nous avions imaginé. Et c'était le lien social qu'on y mettait. Mais depuis quelques années, on se rend compte quand même que le besoin de bouffer... Pardon de l'expression, mais c'est important de bien manger, de mieux manger et puis pas trop payer. Et je ne sais pas si on pourrait faire un sondage dans notre belle salle des conférences là, mais il y a plein de gens qui sont là autour de moi qui n'ont pas les moyens d'acheter bio. Et ça, je peux le confirmer. Il y en a plusieurs, il y en a qui hochent de la tête parce que c'est cher, c'est un fait. Mais si nous, on peut prouver par le jardin que c'est un moyen de subsistance, c'est un moyen de redonner envie, et c'est pour ça que nous avons créé aujourd'hui la ferme à Raymond, c'est aussi de permettre aux gens de voir qu'on peut facilement, techniquement, accéder tout doucement vers du maraîchage. Mais en effet, il y a des grandes différences de population.
Alors par exemple, on va faire un petit tour de salle. Quelqu'un peut prendre le micro et expliquer pourquoi il est venu aujourd'hui à la ferme à Raymond ?
Alors bonjour, moi c'est Nina. Pourquoi je suis venue à la ferme à Raymond ? Parce que tout simplement, je voulais aider. Moi je connaissais Vers le Jardin et puis la ferme qui existait précédemment. Et puis aujourd'hui j'avais du temps à consacrer et je me suis dit pourquoi pas donner de mon temps.
Alors consommez-vous bio, Nina ?
Oui, j'essaye, du moins local.
Et quel est votre lien avec l'écologie dans la vie de tous les jours ?
Waouh ! Le lien. Pour moi, c'est important d'être en cohésion avec la nature. Moi, je suis issue d'une famille paysanne. Et puis, les valeurs de la nature, c'est très important. Donc, du coup, j'essaie de perdurer. Pour moi, c'est très important. Voilà.
Et justement, qu'est-ce qui vous donne envie de consommer du bio ?
Bah, parce qu'il n'y a pas de pesticides, parce que c'est meilleur pour la santé. Voilà.
D'accord. Et vous êtes prête, à mettre un peu plus d'argent pour consommer justement écologique ?
Bah oui. Et puis, c'est aussi pour la nature. Il n'y a pas que pour nous, quoi.
Alors, dans la salle, il y a aussi Aurélien, qui a fait un service civique à Vers le Jardin et qui a connu un peu le chantier de la ferme à Raymond à ses débuts. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu es arrivé à Vers le Jardin et quel âge tu as ?
Bonjour, donc moi c'est Aurélien. Je suis arrivé à Vers le Jardin en faisant un service civique avec la mission locale à l'origine. Donc moi je ne connaissais pas du tout le milieu des espaces verts, de la nature, tout ça. Avant j'étais cuisinier, donc... Et le métier ne me plaisait plus, mais je voulais trouver un truc un peu plus naturel. Donc j'ai mis vachement de temps à trouver ça. Et puis, je ne connaissais pas du tout Vers le Jardin à Brest. Et du coup, bah, j'ai travaillé ici pendant 8 mois. Et depuis, bah, je viens une fois par mois pour les... comme ça, voilà.
Parce que ton service civique est terminé et pourtant tu continues de suivre l'aventure.
Oui, c'est ça.
Donc maintenant tu es vraiment sensibilisé et qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien ? Peut-être qu'il y a des pratiques que tu as modifiées ?
Bah, déjà, en métier, je suis jardinier maintenant. Je travaille pour une commune qui s'appelle Ploumoguer. Voilà. Faut bien. Voilà.
C'est pas rien. Mm-hmm.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle?
Moi, je pense qu'on peut. Moi, je suis agriculteur bio en retraite, installé en 80. Et moi, je pense qu'on peut manger bio même si on est pauvre, mais il faut manger très peu de viande. Et surtout, il faut acheter des céréales, des produits pas chers, les acheter en vrac et tout ça. Et ça revient beaucoup moins cher pour le consommateur. Mais pour le consommateur citoyen, l'agriculture conventionnelle, elle coûte beaucoup trop cher. Au niveau de la santé, au niveau de la dépollution, il n'y a pas que les aides qu'on donne aux paysans et toutes les aides qu'il faut après pour dépolluer, etc. Or, on a parlé que des nitrates, c'est vrai que ça a diminué, mais les pesticides, c'est de plus en plus grave. On a vendu de plus en plus de pesticides alors que les particuliers n'en utilisent plus, la collectivité non plus, la SNCF non plus, et on en vend plus. Donc ça veut dire qu'en France, aujourd'hui, on utilise encore plus de pesticides, et les pesticides, c'est comme le nuage de Tchernobyl, il va partout. Il y a des agriculteurs, des citoyens qui analysent leur urine, on trouve du glyphosate dans les urines de tout le monde. Donc il y a un gros problème de santé qu'on n'est pas prêt de connaître encore et qui n'avance pas vite. Et c'est vrai que moi, qui ai démarré la bio tout seul, on était une dizaine, on va dire, on n'a pas été aidé par qui que ce soit, hein, ni d'aide publique, tout ça. Or, on réussit à en vivre. Moi, personnellement, j'ai vécu sur 5 hectares, à 4. On était 4 associés et on arrivait à en vivre sur 5 hectares. Donc, de dire que c'est dur de vivre en agriculture ou pas, après, c'est des choix, c'est des efforts à faire. Et je crois que par rapport aux pesticides, s'il n'y a pas d'obligation, il y a plein de paysans et de très grosses fermes qui sont collectives aujourd'hui, qui ne sont pas des fermes paysannes. C'est des sociétés qui achètent les terres et qui cultivent. Ils ne sont pas prêts d'abandonner les pesticides s'il n'y a pas d'obligation.
Donc comment est-ce que vous voyez cette nouvelle ère du bio, vous qui avez commencé un peu parmi les pionniers?
On fait un peu marche arrière dans ce sens où on est en train de recréer des labels, etc. Moi, mon combat, ça avait été de créer le logo AB. Et ce qu'on a réussi, et dès qu'on a créé le logo AB, donc toutes les marques existaient, Biofranc à l'époque, Le Maire Boucher, Déméter, Nature et Progrès déjà, ben on a évolué très vite parce qu'on avait une visibilité par rapport aux consommateurs. Et aujourd'hui, effectivement, avec le logo européen, c'est plus complexe. Et on recrée des marques pour croire qu'on est plus blanc que le blanc. Moi, j'aurais préféré que les paysans bio prennent du temps pour aller se battre contre les lobbies. Malheureusement, c'est dur parce qu'on n'a pas d'argent. Mais ils se battent pour que le logo européen soit amélioré plus tôt, pour tous, plutôt que de créer des marques. Parce que chaque fois qu'on crée une marque, on donne son énergie pour la marque. Ça coûte de l'argent parce qu'il faut plus, il faut se faire connaître, il faut la publicité. Et qui paye au final? C'est le consommateur qui paye toujours le dernier.
Donc si on prend à l'échelle individuelle, l'avancée, elle est possible, on a l'impression. Mais alors c'est au niveau du collectif que ça bloque. Claire Ruot, est-ce que vous avez une petite remarque à faire sur ça?
Oui, il y a des références d'agriculteurs en bio ou en agriculture durable. Je pense à des agriculteurs du CEDAPA, par exemple, qui ont démontré depuis des années, par exemple, la rentabilité de systèmes basés à l'herbe. Et pourtant, ça faisait pas mouche. Donc comment ça se fait? C'est-à-dire que, alors que les études montrent que c'est productif et rentable. Donc après, ça renvoie à pas mal de facteurs qui sont un peu, ce que nous on appelle dans notre jargon social, un peu les normes. Quoi. Qu'est-ce qui est considéré comme un bon agriculteur? Alors à un moment, un bon agriculteur, ben voilà, fallait qu'il n'y ait pas une herbe qui dépasse, il fallait produire beaucoup, il y avait l'histoire de la taille. Bon, ça, par exemple, la question de l'accès, enfin, de l'agrandissement, ça paraît pas lié, mais si, c'est lié. Parce que, effectivement, le travail de désherber mécaniquement un hectare ou chimiquement, c'est plus de travail. L'agriculteur le disait tout à l'heure. Donc, un agriculteur tout seul sur une ferme la moyenne en Bretagne augmente extrêmement vite, il y a des choses qu'il ne pourra plus faire tout seul. Alors, ça renvoie donc à la question de la taille. De la taille d'une ferme permettant à un agriculteur d'être en bio ou d'être sur un système moins productif. Sur le plan, je parle de ce qui crache en rendement, mais plus rentable. Et puis ça renvoie du coup aussi au collectif. C'est-à-dire que là, par exemple, l'équipement collectif est indispensable. On parlait avec des agriculteurs là, qui passent à un peu moins de travail du sol. Ben, un agriculteur, il ne peut pas s'équiper tout seul. Par exemple, de semoir direct. Donc, il y a aussi à retrouver un peu réaugmenter le lien au collectif. Alors, ça ne va pas trop dans ce sens-là, parce que les GAEC, les sociétés ont tendance à se développer. Donc, il y a 4-5 associés.
GAEC, c'est...
Ah oui, alors, groupement agricole d'exploitation en commun. Okay. Les sociétés, donc, on a 4-5 sièges qui se regroupent. Mais finalement, donc ils vont travailler, s'équiper entre eux, mais avec une taille rapportée à l'unité de travail agricole, un nombre d'hectares énorme qui fait qu'ils vont s'équiper entre eux. Mais ça ne va pas favoriser le lien au niveau d'un groupe d'agriculteurs. Alors, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que le fait est qu'ils n'ont pas le temps. Et puis, ils vont dire, bah, nous, on s'équipe parce que de toute façon, il faut qu'on s'équipe que nous, parce qu'on en a besoin. Et donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de tension en ce moment avec des groupes qui ont un peu de mal, et même certaines CUMA, coopératives d'utilisation du matériel agricole, qui voient partir des agriculteurs ou ont du mal à faire des choix qui intègrent encore et des petits agriculteurs et des moins petits, par exemple.
Daniel Evin, vous avez une remarque ?
J'ai pas complètement la même lecture, même si je partage une partie de ce qui a été dit dans mon quotidien à différents niveaux. Moi, j'ai vu et je vois encore et je vois toujours beaucoup de groupes d'agriculteurs qui travaillent ensemble et qui travaillent justement dans le cadre d'un enjeu territorial. Je vous ai parlé tout à l'heure des baies algues vertes. Moi, j'ai participé à des ce qu'on appelle des CPA, des comité professionnel agricole qui regroupe des agriculteurs très différents. Et il y a là, autour de la table, des personnes qui se posent la question de comment on améliore notre territoire avec une thématique eau, une thématique pesticide ou une thématique nitrate, etc., etc. Comment on fait, comment on travaille, comment est-ce qu'effectivement, agronomiquement, on est encore plus performant. Et je pense qu'effectivement, une partie des solutions à ce dont on a parlé tout à l'heure, qui soit de l'énergie, de la consommation, de l'alimentation, viendra aussi de ce que ces groupes-là sont en train de faire sur le terrain. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Les pratiques changent beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et je pense que... si on veut accélérer aussi les choses, il faudra sortir aussi de ces postures qui mettent les uns contre les autres, les uns éventuellement à côté des autres dans le meilleur des cas. Et moi, ce que je voudrais, ce soit que les uns travaillent avec les autres. Et c'est ce qu'on a vu beaucoup quand il y a eu des groupes, notamment de transfert entre des techniques bio appliquées à d'autres cultures. C'est comme ça qu'on progressera. C'est comme ça qu'on tirera la totalité, ou là en tout cas la très grande majorité des agriculteurs vers des changements qui sont, semble-t-il, inéluctables, parce qu'il y a des demandes, parce qu'il y a des enjeux, parce qu'on est tous sur le même territoire et tous sur la même planète. Ces changements-là, ils vont se faire, mais ils se feront qu'à partir du moment où on arrête aussi les postures. Et moi, je m'en suis battue contre ça pendant longtemps. Je continue de le faire parce que ça n'est que... c'est stérile. Et ça n'amènera pas... ça ne peut pas être la réponse à tous les enjeux que l'on a devant nous. Donc les groupes, moi, j'y crois fortement... Et il y en a beaucoup sur le terrain. Alors, il faut qu'il y en ait plus.
Oui, juste une précision, qu'on se comprenne bien, parce que le cœur du travail du Gerdal depuis 83, c'est le groupe. Hein. Voilà. Donc, je crois que ce n'est pas là-dessus. Oui, sauf que je voudrais juste donner des chiffres. C'est moins d'un quart des agriculteurs qui sont dans des groupes.
Ouais.
Et c'est moins que quand j'ai commencé à travailler avec le Gerdal et avec les chambres, les CIVAM, les GDA, les CETA, et c'est tous les groupes que je pense que vraiment... Et je me suis battue pour le renouvellement de l'appel d'offres AEP. Donc, il y a aujourd'hui des agriculteurs qui sont dans plusieurs groupes. Ces groupes sont absolument moteurs. Je ne vais absolument pas aller contre ces... Mais le gros défi, c'est d'aider plus d'agriculteurs à y aller. Et là, il y a vraiment
tout
un
à
défi
fait.
Parce que
tout à
y a
fait.
Des agriculteurs
je pose
isolés,
aussi en termes de défis
voilà.
et d'enjeux,
et d'autres
évidemment.
Qui profitent de ces groupes, donc qui sont à fond et qui, évidemment, font plein de choses super. Mais on est en train de voir un peu une sorte d'écart qui est en train de se creuser entre ceux... Et ce n'est pas une histoire de par exemple, bio, pas bio. C'est entre des agriculteurs isolés d'un côté et des agriculteurs dans plein de groupes, ayant accès à plein de ressources de l'autre. Et là, il y a un vrai défi social et socio-professionnel vis-à-vis de ces agriculteurs, et parmi lesquels il y a des jeunes agriculteurs
et comment,
qui ont le nez dans le guidon et qui ont du boulot jusque-là, j'en rencontre tous les jours.
Et comment le relever, ce défi ?
Eh bien, je crois qu'il faut aller vers eux, parce qu'en fait, il y a... Bon, là, vous m'emmenez loin, parce que c'est toute la question de la pratique du développement. C'est comment... Est-ce qu'on va chercher des gens dont on dit qu'ils sont déjà... engagés ou pas. Si on va chercher des gens qui sont déjà engagés, par exemple, à l'époque, c'était sur l'intensif, les modernes. Aujourd'hui, les modernes, c'est ceux qui sont sur l'agroécologie. Mais enfin, c'est le même message. On ne va pas chercher ceux qui sont, au contraire, plus en difficulté, qui expriment moins de choses, qui sont moins dans les réunions. Donc, il faut y aller. Et ça renvoie à un lien avec le terrain. Donc, je pense qu'il faut que les organisations de développement, toutes, hein, retrouvent aussi un lien fort avec le terrain qui, parfois, c'est un petit peu distancié, ne serait-ce que parce qu'il y a une surcharge de travail, parce que enfin là, bon, du côté des conseillers, et quand, et je disais tout à l'heure avant l'émission, là on en parlait, que quand il n'y a plus personne qui va dans les fermes, il y en a encore un qui y va. C'est le technico-commercial de l'entreprise à Mont-Aval, parce que lui, il est sur le terrain, et effectivement, bon, il est souvent un bon agronome aussi, d'ailleurs, hein, c'est un conseiller, c'est pas des gens qui, c'est des gens qui connaissent aussi, mais du coup, il y va aussi pour vendre des produits. Donc, on a d'un côté des agriculteurs hein, qui vont être dans un GVA, travail du sol, dans le réseau APAD, par exemple, dans le groupe des éleveurs de porc, sur le sens antibiotique de la Coperle, etc. Donc, eux, ils ont toutes les ressources, et c'est eux les modernes d'aujourd'hui. Et puis l'autre qui va être tout seul en train d'acheter ses produits et avec du boulot jusque-là. Donc c'est le défi, il me semble, du Conseil agricole aujourd'hui d'aller vers ces gens-là et pas seulement vers les modèles.
Une réponse à ça, c'est pour ça qu'il faut des textes d'obligation. Et aujourd'hui, le technicien a droit de conseiller, mais il n'a plus droit de vendre depuis cette année, fin de l'année dernière. Donc on a différencié à juste titre les deux. Et ce qui fera avancer effectivement l'agriculture par rapport à l'agroécologie, c'est bien des règles que tous les paysans devront respecter. Et le deuxième volet, c'est surtout les consommateurs. Hein. Si on veut manger, si on mange des produits de qualité, on va produire des produits de qualité. Si on mange, on continue à manger des produits de mauvaise qualité, ben on va continuer à soutenir une agriculture de mauvaise qualité.
Donc vous avez été agriculteur.
J'étais 30 ans agriculteur, voilà, donc je fais du maraîchage bio. Franche conseil.
Voilà. Donc, c'est pas un prénom, ça. Voilà. Donc comme a dit Franche, maintenant, y a les conseillers ne pourront plus vendre et donc les agriculteurs isolés, comme vous dites, ne pourront plus se faire normalement avoir. Normalement. Après, donc, c'est vrai qu'il faut avoir plus d'accompagnement. Daniel Lévin, vous qui avez travaillé en chambre d'agriculture, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce manque d'accompagnement justement des agriculteurs isolés ?
Manque d'accompagnement des agriculteurs isolés, c'est un peu caricatural. Hein, quand
mais
même.
Il y en a un petit peu qui n'ont pas de rapport avec les conseillers.
Il y a effectivement des collègues sur le terrain, c'est ce qu'on a pu remarquer quand on a mis en place un certain nombre d'actions, qui n'ont pas accès, alors pour différentes raisons, qui n'ont pas accès. C'est vrai que c'est tout l'enjeu d'aller faire un travail de dentelle, de fourmi, peu importe le mot, d'aller effectivement à la rencontre de ces agriculteurs. C'est le travail que fait les chambres d'agriculture. Quand les chambres d'agriculture, par exemple, se réorganisent, ce qu'on a fait de manière très volontariste en Bretagne, en ayant et en consolidant la présence des chambres à travers les antennes territoriales. C'est fait maintenant sur la totalité de la Bretagne, avec des territoires qui sont globalement à l'échelle des EPCI. Tout dépend effectivement des secteurs, mais sur un département comme le mien, 8 EPCI, 8 antennes de chambres d'agriculture, telles que on veut les voir fonctionner, avec une multitude de compétences de conseillers et à qui effectivement on demande d'être au plus près des pratiques des agriculteurs. Et on parlait tout à l'heure des jeunes agriculteurs. Les jeunes agriculteurs sont de plus en plus formés, c'est un secret pour personne, sont aussi installés, comme on pouvait le dire aujourd'hui, plus en société, parce qu'ils aspirent également, mais comme nous tous, hein, à avoir un peu plus de temps libre. Donc le travail, effectivement, dans les sociétés est une évidence. Et il faut qu'on mette, par exemple, à profit ce temps de l'installation en agriculture et surtout cette post-installation, ce qu'on a mis en place à travers un certain nombre de, contrats que l'on peut passer avec les agriculteurs pour justement travailler au moment de l'installation, qui est souvent un moment de réflexion pour la totalité de l'exploitation. Et comment est-ce qu'on s'inscrit dans son territoire, comment on va travailler, comment on va peut-être changer ses pratiques, comment on va changer son système, etc., etc. Donc il y a des moments clés dans la vie d'une exploitation qu'il faut utiliser, qu'on essaye d'utiliser. Et moi, ce que je voudrais aussi redire, c'est qu'il faut avoir confiance dans ces mouvements qui ont toujours existé et qui sont effectivement des mouvements d'évolution. Il faut avoir confiance aussi dans les jeunes, parce que je crois aussi qu'une partie de ce qu'on dit depuis tout à l'heure a trait aussi à la formation. Alors, à la formation initiale, évidemment, mais également à la formation continue. Et je crois que là-dessus, même si on peut toujours dire que c'est pas suffisant, mais je crois que là-dessus, au niveau Bretagne, on a aussi des schémas de formation qui sont intéressants et qui sont multiples, dans laquelle, aujourd'hui, bah, tout un chacun peut s'inscrire avec les systèmes de remplacement, etc. etc. Donc, il faut aussi beaucoup miser là-dessus. On a parlé de la recherche, mais moi, je crois beaucoup aussi aux temps de formation qui sont aussi des temps d'échange et des temps de groupe. et notamment effectivement quand il s'agit des fois de prendre ce temps de réflexion pour faire peut-être autrement.
Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle ? Parce qu'on arrive à la fin de l'émission.
Je voulais quand même un petit peu réagir en tant que
Valérie Lazanec,
paysanne bio, par rapport à ce qu'il vient de se dire. Je suis un peu étonnée d'entendre de telles choses. On sent quand même aujourd'hui, on entend beaucoup parler de suicide dans l'agriculture. Je pense que c'est un sujet un peu tabou, mais qui est vraiment très, très existant. On voit aussi, on part là sur des années où il va y avoir énormément de départs en retraite. Donc beaucoup de fermes qui vont mourir parce que rien n'est fait aujourd'hui pour que de petites structures ou des moyennes structures résistent ou puissent être reprises. Mais essentiellement de l'agrandissement et bien évidemment du coup l'artificialisation des terres qui fait qu'aujourd'hui on laisse partir les terres nourricières et que aujourd'hui l'agriculture va droit dans le mur. Et que voilà, il est plus que temps de bouger et d'entendre encore de dire que tout va bien et que tout le monde réfléchit, qu'on forme bien les jeunes agriculteurs de demain. Je crois que non, il est plus temps que ça bouge. Et je pense que c'est la rééducation des gens qu'il faut faire aujourd'hui. Et elle passera aussi par les instances qui doivent aussi comprendre aujourd'hui que ce système-là, il est terminé et qu'il faut vraiment, vraiment chacun s'unir pour qu'on avance et arrêter aussi la pression des lobbies et pour que du coup, réellement, on prenne conscience.
C'est justement ce que Fanche disait, ancien agriculteur.
Voilà. C'est au niveau de la réglementation toujours. Par exemple, on dit qu'il faut installer des jeunes, il faut qu'ils trouvent des terres. Or, la SAFER, qui est une bonne chose, avant s'en occupait un peu avec les syndicats paysans. Mais aujourd'hui, quand c'est une société, on n'est pas obligé de déclarer à la SAFER qu'on va vendre. Et donc, on passe à côté de la SAFER. Comme quoi, quoi qu'on dise, il faut des textes très réglementaires qui obligent les gens à
faire. Alors, vous pensez aux auditeurs aussi, si vous pouvez expliquer un peu ce que c'est la SAFER.
Société foncière. D'un déménage foncier, donc chaque notaire doit déclarer les surfaces à la SAFER. D'accord. Et après les syndicats et les exploitations environnantes ont les renseignements. Or, quand c'est une société, on n'est pas obligé de déclarer à la SAFER. Donc, on ne sait pas.
Très bien. Eh bien, merci. On va toucher à la fin de cette émission. Désolé, Daniel Evin.
Juste, dans mon propos, il n'était pas de dire que tout allait bien et que tout allait continuer comme avant. Et je suis la première à dire qu'il faut effectivement encourager et même s'il y a des moments qui sont difficiles, même s'il y a des moments qui sont compliqués, justement, avoir collectivement l'idée de porter aussi l'agriculture bretonne et toutes ces transformations, parce que c'est comme ça que ça marchera.
Oui, justement, on l'a expliqué pendant l'émission, donc merci beaucoup.
C'était le dernier épisode de Gavé. Merci à nos invités d'avoir répondu à nos questions. Valérie Lazenec, éleveuse laitière à Brest. Daniel Evin, présidente du réseau Agriculteurs de Bretagne. Claire Huot, sociologue spécialisée dans le développement rural. Merci également à l'équipe de l'association Vers le Jardin d'avoir accueilli ce plateau radio à la ferme à Raymond, à Guy Pava. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram à LP Journalisme Lannion pour découvrir tous nos épisodes de Gavé et ses coulisses. Merci à tous et à toutes.
En fait, nos collègues journalistes de l'IUT de Lannion ont réalisé un documentaire télévisé sur l'agriculture biologique à retrouver ce mois de juin à très vite sur Facebook, Twitter et Instagram à LPJ Lannion. Ça va ou pas? Je vais peut-être le refaire.